Chers amis, bonjour, merci d'écouter RCF Saint-Aignan. Vous êtes dans l'émission Église aux mille visages. Je vous propose aujourd'hui d'écouter l'interview d'un chercheur, Michael Langlois, que je recevais il y a quelque temps à la sortie d'une conférence sur l'archéologie et la Bible. Cette conférence était proposée à Orléans en lien avec l'exposition biblique présentée pendant quelques semaines à Saint-Pierre-le-Puellier. Michael Langlois, chercheur sur l'archéologie et la Bible.
Michael Langlois, je vous interview à la sortie d'une conférence que vous avez faite à Orléans sur la Bible et l'archéologie. On l'avait intitulée « La Bible à l'épreuve de l'archéologie ». Avant de peut-être revenir un petit peu sur le fond de la conférence et les exemples que vous avez développés ce soir, j'aimerais rappeler à nos auditeurs que vous êtes déjà venu à Orléans il y a 2 ans à peu près parler des manuscrits de Qumran. C'était à l'époque un sujet sur lequel vous aviez beaucoup travaillé, cherché même, c'était le cœur de votre travail de doctorat. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous avez avancé à partir de ce travail?
Oui, alors c'est vrai, je me souviens bien être venu il y a quelques années à Orléans avec grand plaisir, et c'est toujours avec plaisir que j'y reviens aujourd'hui. Depuis, mes recherches ont continué. Après le doctorat, j'ai passé le diplôme supérieur, on appelle ça l'habilitation à diriger des recherches. C'est le diplôme qui permet de délivrer soi-même un diplôme de doctorat. Et donc j'ai travaillé sur le livre de Josué, notamment le chapitre 10. Et je viens de sortir un livre qui est arrivé sur mon bureau la semaine dernière, qui s'appelle « Le texte de Josué 10 », tout simplement. C'est une enquête sur les plus anciens témoins du texte de Josué et sur son histoire littéraire. Bien sûr, je continue à travailler sur Qumran. L'an passé, on a eu une grande exposition à la Bibliothèque nationale de France, à Paris, autour de Qumran et des manuscrits de la Mer Morte. Donc je continue, et puis je suis en poste à l'Université de Strasbourg, où je suis maître de conférence en Ancien Testament à la faculté de théologie protestante.
Alors on vous faisait venir ce soir pour que vous éclairiez la connaissance biblique à partir des données archéologiques dont on dispose aujourd'hui. Vous avez choisi 4 exemples très très significatifs hein, pour étayer cette conférence. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler et puis nous dire un petit peu pourquoi vous avez choisi ces 4 exemples?
Oui, alors pourquoi d'abord 4 exemples et pas plus ou pourquoi pas un discours plus théorique. Le problème, c'est que en l'espace d'une conférence, on peut pas tout dire. Et rester dans des généralités, c'est souvent un peu décevant ou frustrant pour le public. Alors j'ai préféré prendre quelques exemples significatifs, ceux qui me paraissent être les plus célèbres, les plus importants, ceux qui ont vraiment eu un impact sur la connaissance qu'on a de la Bible, et qui par ailleurs correspondent à la fois à des périodes différentes, également des zones géographiques différentes, et puis des domaines de la civilisation qui sont des domaines différents. Alors les 4 que j'ai choisis, le premier, c'est le code de Hammurabi, du roi Hammurabi, qui date du 18e siècle avant notre ère, donc c'est quand même très ancien, pratiquement 4000 ans, et qui est un code de loi, donc c'est un texte législatif, et donc qui nous renseigne sur tout l'environnement juridique, toute la société de l'époque, la civilisation, le droit pénal, le droit également des affaires, toute la question du mariage, de l'adoption. Enfin voilà, ça, c'est très très... C'est une des meilleures sources d'informations sur ces questions-là, sur l'Antiquité. Le deuxième exemple que j'ai choisi...
Alors, juste une question, oui. Ça se présente comment ce code, vous dites
Alors
code,
oui, il est préservé, alors on l'a en plusieurs exemplaires, mais l'exemplaire le plus célèbre et le plus beau, il est sur une stèle qui a été érigée par le roi Hammurabi lui-même, donc qui date du 18e siècle avant notre ère. Et cette stèle, elle fait plus de 2 mètres de haut, 2 mètres 20 de haut, elle est au Louvre. Et donc c'est une stèle en diorite et que vous pouvez admirer si vous allez dans les salles des antiquités orientales du Louvre. Il y a un beau bas-relief au sommet qui présente le roi Hammurabi lui-même qui reçoit ce code de loi de son dieu tutélaire, le dieu Shamash, le dieu de la justice.
Alors le deuxième exemple.
Alors le deuxième exemple, là j'ai changé d'époque, je suis passé dans la deuxième moitié du deuxième millénaire avant notre ère, donc au XIIIe siècle avant notre ère, dans une autre région, non plus la Mésopotamie, mais cette fois-ci la Syrie, la côte, ce qu'on appelle la côte levantine, qui est sur un site qui s'appelle Ougarit, c'est le nom antique. Aujourd'hui, c'est à côté de la ville de Latakié, qui est en face de Chypre, hein, pour situer. Alors là, on change de zone, on change également de langue, puisqu'on a découvert des textes. Alors on a aussi découvert des textes en acadien et dans d'autres langues, mais... La langue à parler à Ougarit, qu'on appelle l'ougaritique, c'est une langue qu'on a découverte sur place, qui est en plus très proche de l'hébreu, Et cette langue nous a livré des centaines de textes qui, et notamment, et les textes sur lesquels je me suis arrêté ce soir, ce sont des textes dits mythologiques, qui nous parlent de la religion, donc des dieux, des combats entre les dieux éventuellement, mais également de leur rapport avec les humains, des héros des humains qui peuvent accomplir des actes héroïques, etc. Et ça, c'est là encore un éclairage fabuleux sur la Bible et les traditions que l'on retrouve dans la Bible.
Alors vous avez choisi deux autres exemples sur lesquels on va revenir dans un instant, mais d'abord une pause musicale. Je suis en compagnie de Michael Langlois, nous sommes sur RCF dans l'émission Église aux mille visages. Michael Langlois faisait il y a quelque temps une conférence à Orléans sur l'archéologie et la Bible à l'épreuve de l'archéologie. Et je demandais à l'instant à Michael Langlois de rappeler les quelques exemples sur lesquels il s'est appuyé pour montrer à quel point l'archéologie venait rencontrer le texte biblique, confirmer les données bibliques. Et Michael, voilà, vous allez nous donner encore deux autres exemples de cette archéologie au service de la Bible.
Oui, alors après avoir regardé le code d'Hammurabi, 18e siècle avant notre ère, puis avoir voyagé jusqu'à Ougarit au 13e siècle avant notre ère, on a encore fait un bond de 500 ans pour nous retrouver au début du premier millénaire avant notre ère, au 9e siècle avant notre ère. Et j'ai présenté deux stèles qui sont des stèles à caractère politique et même militaire, puisque ce sont des stèles qui rappellent des victoires militaires. Alors pourquoi ces stèles? Eh bien parce qu'elles ont été érigées par les voisins des royaumes d'Israël et de Juda. Le voisin de l'autre côté du Jourdain, le roi de Moab, qui correspond à la Jordanie actuelle, et les voisins au nord, le roi araméen, qui correspond à la Syrie actuelle. Et à chaque fois, donc, ils commémorent une victoire contre les royaumes d'Israël et de Juda. Ça nous permet d'abord de mieux comprendre la situation politique de l'époque, les rapports que les royaumes entretenaient entre eux, également de simplement confirmer l'existence même de certains de ces rois qui sont nommés. Par exemple, la stèle du roi de Moab, le roi s'appelle Mécha. Il se trouve que c'était un roi qui était mentionné dans la Bible, dans le deuxième livre des rois au chapitre 3, et nous n'avions aucune information sur ce roi en dehors de la Bible. Son nom n'apparaissait nulle part, et d'aucuns auraient pu s'imaginer que ce roi n'avait tout simplement jamais existé, que c'était une simple construction littéraire. En réalité, grâce à cette stèle, on sait que ce roi a bien existé. La stèle du roi Mécha a d'autres intérêts. Elle présente, par exemple, elle mentionne le nom divin, le tétragramme, le nom de Dieu, qu'on prononce souvent Yahvé, mais en fait, dont on ne connaît pas la vraie vocalisation. Eh bien, c'est la plus ancienne attestation archéologique du nom divin. J'ai présenté également la stèle dite de Tel Dan, puisqu'elle a été retrouvée sur ce site archéologique. Alors là, tout récemment, ça prouve que l'archéologie continue, les fouilles continuent, on continue à faire des découvertes majeures. Dans les années 90, on a découvert cette stèle qui mentionne pour la première fois le nom d'un autre roi qui est également mentionné dans la Bible, le roi David, qui est certainement plus connu de nos auditeurs que le roi Mécha. Le roi David est célèbre dans la Bible. Eh bien, lui non plus n'était pas connu en dehors de la Bible. Son nom n'apparaissait nulle part et on pouvait se poser la question, disons, mais est-ce qu'il a jamais existé? Eh bien là, pour la première fois, on fait mention de la dynastie du roi David, ce qui confirme également qu'il a été le fondateur d'une dynastie. Alors le texte ne nous en apprend pas beaucoup plus, on ne sait pas dans quelles circonstances cette dynastie a vu le jour, il ne s'agit pas de reprendre point par point toutes les données du récit biblique sur ce personnage de David qui est vraiment présenté comme une figure héroïque, comme un jeune héros. J'ai édité un livre l'an passé avec des collègues du Collège de France qui s'appelle Le Jeune Héros et qui justement reprenait des figures héroïques dans les traditions du Proche-Orient ancien. On a parlé du roi David. Mais en tout cas, le mérite de cette stèle, c'est au moins de signaler l'existence de ce roi David et de la dynastie liée à ce roi David.
Juste une question en passant. Cette stèle, par exemple, on la trouve par hasard, on la cherche et on la trouve. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, voilà, on s'intéresse à l'endroit où on trouve une stèle? Enfin, vous voyez, comment ça vient, ça?
Alors ça, là, en l'occurrence, dans le cas de la stèle de Dan, c'est un pur hasard. Ouais. Les archéologues fouillaient le site archéologique d'une ville qui s'appelle Dan. Alors, c'est connu dans la Bible, il y a une tribu qui s'appelle Dan. Donc, on savait qu'il y avait une ville ici. Elle est très intéressante parce que, justement, on a retrouvé des traces d'activités cultuelles. Enfin bref, donc les fouilles archéologiques en elles-mêmes sont passionnantes, mais au hasard des fouilles, on a déterré un fragment d'une stèle, il a fallu la déchiffrer, et puis là, miracle, enfin c'est pas un miracle, mais disons c'est heureux hasard, on a ces informations précieuses sur l'histoire politique et militaire du royaume d'Israël et du royaume de Juda.
Qu'est-ce qui se passe quand on tombe comme ça sur une découverte, donc un petit peu au hasard? Qu'est-ce que ça provoque en chaîne? On a des multiples chercheurs qui se précipitent, qui traduisent et qui interprètent. Comment ça...
Oui, c'est vrai. Alors là encore, c'est un excellent exemple. D'abord, les fouilleurs, les archéologues qui ont fouillé le site, ont publié très vite cette stèle. Parfois, on attend des années avant d'avoir la publication. Et là, ils se sont rendus compte de l'importance de la chose. Donc, ils ont très vite, je crois, dès l'année suivante, on avait des photographies avec des transcriptions, traductions, etc. Forcément, ça a fait des remous. Toute la communauté scientifique internationale en a parlé. Les grands épigraphistes ont tous voulu... publier leurs propres articles concernant cette stèle, leur propre déchiffrement, leur propre reconstruction, parce que seul un fragment de la stèle avait été découvert, donc il fallait, on avait le début des lignes mais pas la fin des lignes, donc les spécialistes disaient, moi je reconstruis la fin des lignes, et y compris parmi les spécialistes français, c'est très intéressant, il y avait notamment deux célèbres épigraphistes qui avaient chacun publié l'inscription, et l'un s'était avancé en restituant toute la fin des lignes. Mais alors, ce qui est amusant, c'est que dans ce cas précis, c'est vraiment, là encore, un nouveau hasard, l'année suivante, la saison de fouilles suivante, on a retrouvé deux fragments supplémentaires de la stèle qui venaient compléter les lignes manquantes, et malheureusement, ça ne correspondait pas du tout à la reconstruction qu'avait proposé l'épigraphiste. Comme quoi, parfois, il ne faut pas se précipiter pour publier une inscription, il est parfois bon de prendre le temps, et surtout de ne pas trop s'avancer, et d'être parfois prudent avant de partir dans des théories ou de proposer des reconstructions parfois hasardeuses.
Ouais. Alors, vous allez évoquer dans un instant Qumran, c'est le quatrième exemple que vous avez pris ce soir. On sait que vous y avez consacré beaucoup de temps dans votre travail. Nous écoutons un morceau de musique avant. Je suis en compagnie de Michael Langlois dans l'émission Église aux mille visages. Je recevais Michael il y a quelque temps à l'issue d'une conférence qu'il donnait à Orléans sur l'archéologie et la Bible à l'épreuve de l'archéologie. Michael a, dans cette conférence, évoqué plusieurs exemples de traces archéologiques permettant de confirmer le texte biblique, en tout cas de rencontrer le texte biblique, et nous allions parler de Qumran, du site de Qumran sur lequel Michael Langlois a beaucoup travaillé. Alors, Michael, Qumran, ça a été fabuleux pour la recherche publique?
Oui, absolument. C'est pour ça que j'ai voulu garder Qumran parmi les quatre exemples que j'ai choisis. D'une part, il arrive en dernier lieu à la fois dans le temps. Il est aussi au plus près de la Judée, puisque c'est un site qui est au bord de la mer Morte. Et puis, il est au tournant de notre ère. Et c'est là qu'on a pour la première fois des manuscrits du texte biblique. Et je pense que ça a été la révolution pour les études bibliques, puisque... Avant la découverte de Qumran, les plus anciens manuscrits bibliques, la plus ancienne Bible hébraïque complète, datait du XIe siècle de notre ère. Ouais. Ce sont des manuscrits médiévaux qui sont précieux certes, mais qui sont quand même très éloignés de la date supposée de rédaction des textes bibliques. Or là, par rapport à ces plus anciennes Bibles hébraïques, on a fait un bond de 1000 ans en arrière, et là, on retrouve parmi les quelques 900 manuscrits de Qumran, plus de 200 manuscrits qui correspondent à des livres de la Bible hébraïque. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fabuleux, et c'est l'occasion pour la première fois de voir le texte, j'allais dire, en train d'être rédigé, encore sur le métier. On est encore en train de travailler le texte, on est encore en train de l'améliorer, de le retoucher, de le retravailler, avant cette période de fixation du texte biblique, du canon biblique, c'est-à-dire de la liste des livres qui doivent figurer dans la Bible. On est avant toute cette phase-là, donc ça nous permet de toucher au plus près l'histoire du texte biblique.
Alors, une grande variété de textes à Qumran. Vous disiez dans votre conférence que on voyait même donc des sortes de débats, je ne sais pas s'ils sont théologiques ou autour des textes, en tout cas des recueils de textes à Qumran, puisque vous évoquiez par exemple les recueils des psaumes dans lesquels l'ordre n'était pas exactement le même selon les manuscrits qu'on avait trouvés.
Oui. Absolument, c'est des faits très importants dans l'histoire dans la recherche, ouais, sur la rédaction des livres bibliques. Si on prend le corpus des psaumes, le recueil de psaumes, nous aujourd'hui, si nous ouvrons notre Bible, nous avons 150 psaumes, qui ont d'ailleurs été numérotés de 1 à 150, c'est plus pratique. Eh bien, on a eu la surprise à Qumran de prendre un rouleau des psaumes, par exemple, et d'avoir un psaume, là j'ai montré la photographie d'un rouleau des psaumes, où on a le psaume 31, et après le psaume 31, on s'attend à trouver le psaume 32, mais en réalité, c'est le psaume 33 qui suit. Et après le psaume 33, on s'attend à trouver le psaume 34, et bien non, c'est le psaume 35. Et donc, ça nous montre qu'à l'époque, la liste et l'ordre des psaumes qui doivent figurer, qui doivent composer le psautier, eh bien, n'est pas encore figé. On a également retrouvé un exemplaire du rouleau des psaumes qui a le psaume 151. Or, si nous ouvrons notre Bible, les psaumes s'arrêtent au numéro 150. Mais ça, c'est dans la Bible hébraïque. Or, on savait déjà qu'il y avait plus de psaumes. Par exemple, les anciennes Bibles grecques, la Bible grecque dite des Septante, avait un psaume supplémentaire qu'on avait appelé le psaume 151. Des Bibles syriaques allaient jusqu'à 153, 154. Ces psaumes qui n'étaient connus que par des traductions grecques, syriaques, etc., ont été découverts à Qumran. Il y a des manuscrits de Qumran, des manuscrits des psaumes, qui ont le psaume 151, qui ont le psaume 153, qui ont le psaume 154. Et c'est très intéressant de voir que la nouvelle édition de la traduction œcuménique de la Bible, la toute nouvelle édition, a intégré le psaume 151, qui figure pour la première fois dans cette Bible. Et je trouve que c'est très intéressant pour le lecteur, parce que ça lui permet d'avoir un regard neuf sur ce psautier, se rendre compte aussi de cette histoire, que ce psautier qui nous paraît peut-être figé dans l'état actuel, en réalité, a toute une histoire rédactionnelle qui est fabuleuse.
Alors, quelques petites questions comme ça pour compléter au fond votre conférence et puis cet entretien que nous avons ensemble. D'abord, on a beaucoup parlé de l'archéologie au service de la Bible. Est-ce que pour les archéologues, la Bible telle que nous l'avons aujourd'hui sont aussi une mine de renseignements pour comprendre ce qu'ils trouvent dans les fouilles?
Oui, absolument, et à plusieurs titres. À vrai dire, la Bible, d'une certaine manière, est même à l'origine de la discipline qu'on appelle aujourd'hui l'archéologie, la science moderne de l'archéologie, avec des méthodes scientifiques. Par exemple, la méthode de stratigraphie, l'idée que sur un site archéologique, les différentes phases d'occupation successives se sont empilées. On fait donc des strates, et que plus on fouille, plus on creuse, et plus on remonte le temps. Eh bien, cette méthode d'étude de la stratigraphie a été mise au point par des spécialistes qui étudiaient des sites en Terre Sainte au XIXe siècle et qui cherchaient à mieux comprendre la Bible. Et donc c'est en cherchant à mieux comprendre la Bible qu'on a mis au point cette discipline de l'archéologie. Alors maintenant, on a des retours, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est évidemment l'étude de la Bible qui bénéficie de la science de l'archéologie, mais la Bible reste, encore à l'heure actuelle, une source d'informations précieuses pour l'historien de l'Antiquité. C'est un document historique comme tous les autres. Ce soir, je lisais j'ai lu des extraits, par exemple, de la stèle de Mécha. Le roi Mécha explique qu'il était, pendant des années, son royaume était assujetti aux Israélites parce que son Dieu était en colère contre lui, mais qu'ensuite son Dieu lui a donné la victoire, etc. tous les textes de l'Antiquité font toujours référence aux divinités. Le religieux est omniprésent. Quand j'ai parlé du code d'Hammurabi tout au début, avec tous ces textes de loi, c'est le domaine du juridique, eh bien, au début, en prologue, on dit bien que cette loi, elle est reçue par la divinité. Donc le fait que la Bible soit un livre à caractère religieux ne le discrédite pas totalement aux yeux de l'historien. L'historien utilise toutes les sources de documentation à sa disposition, y compris les sources bibliques, avec le recul nécessaire de l'historien qui va essayer de déceler justement des informations pertinentes d'un point de vue historique et archéologique dans la Bible, comme il le ferait à partir de n'importe quelle autre source.
Alors, une autre question que peut-être certains auditeurs pourraient se poser, est-ce que il y a évidemment des tas de parties de la Bible, des textes qui aujourd'hui n'ont pas été confirmés par l'archéologie, est-ce qu'à terme, au fond, on risque pas d'avoir une partie de la Bible qui serait crédible parce qu'elle est confirmée par l'archéologie, et puis une partie qui serait peut-être à soupçonner et du coup peut-être moins crédible parce qu'on n'aurait pas de traces archéologiques. Et là, je pense à ceux qui ont besoin de quelques éléments, historiques pour que ce texte devienne le support de la foi. Enfin, vous voyez, oui. Derrière le...
Cela dit, je comprends cette question et je comprends que certaines personnes s'interrogent évidemment en disant mais finalement ouais. Je lis la Bible, quelle est la crédibilité de la Bible? Certains personnages bibliques sont mentionnés ailleurs, voilà. Mais d'autres c'est pas le cas. Alors est-ce que je dois faire un tri? C'est très difficile. C'est une question qui est difficile. D'abord, il faut bien se rendre compte que les connaissances que nous avons du Proche-Orient ancien sont très fragmentaires. Mmh. Elles sont fragmentaires et même accidentelles. Des sites comme le site d'Ougarit, le site de Qumran, ce sont des sites qui ont été découverts par hasard. Ougarit, c'est un paysan qui est en train de labourer son champ et d'un seul coup, sa charrue s'enfonce, il fouille et il découvre des tablettes et ça y est, c'est le site d'Ougarit. À Qumran, il y a la petite histoire du bédouin qui cherche sa brebis perdue et qui trouve les manuscrits dans la grotte. Bon, et finalement, on se dit c'est accidentel et on ne connaît rien. C'est malheureusement triste, mais il faut dire finalement on ne connaît presque rien du Proche-Orient ancien, sauf quand on a la chance de découvrir un site, des objets, des inscriptions qui là d'un seul coup nous apportent une mine de renseignements, mais qui sont souvent très localisés, et très partiels malgré tout. Donc je pense que la plupart des personnages qui sont mentionnés dans la littérature du Proche-Orient ancien, y compris la littérature biblique, ne sont pas n'apparaissent pas, on n'a pas de preuve archéologique de l'existence de ces personnages. C'est pas pour autant qu'il faut rejeter l'idée même d'une historicité de ces personnages. Maintenant, je pense surtout que pour quelqu'un qui veut lire la Bible en tant que croyant, je pense que la question de l'historicité de ces textes n'est pas une question primordiale. Je pense que la Bible, elle se laisse découvrir comme ayant un message qui est théologique, une visée qui est théologique. Et c'est ça le but de la lecture du texte biblique, c'est de dégager le message de ce texte, y compris pour aujourd'hui. Y compris si moi aujourd'hui je suis chrétien et je lis la Bible, je veux que ce livre puisse me parler et qu'il puisse avoir un sens dans ma vie aujourd'hui. Et la question de l'historicité d'Abraham, de Moïse, etc., ça n'est peut-être pas une question qui est si importante que ça pour en dégager le sens. En revanche, comprendre la raison pour laquelle telle ou telle tradition déjà connue au Proche-Orient ancien a été intégrée dans la Bible, éventuellement remaniée, et pourquoi pas éventuellement justement rejetée, là elle est pertinente. Et ce soir, à l'occasion de la conférence, j'ai eu l'occasion de montrer la façon dont on peut montrer les similitudes entre le Code d'Hammurabi, la Torah de Moïse, mais aussi de montrer les différences en disant attention, parfois l'auteur biblique prend ses distances par rapport à des traditions environnantes en disant écoute, non, moi je ne crois pas ça, moi j'ai une autre vision des choses, je vois plutôt les choses comme ça. Et dès lors, ces découvertes archéologiques nous permettent de mieux comprendre également la spécificité du texte biblique.
De quoi rêve un chercheur comme vous sur le plan archéologique? Est-ce qu'on se lève chaque matin en regardant le journal en espérant que quelque part une recherche fouille à...
Oui, ce serait absolument fabuleux. D'abord, on continue à faire des découvertes régulièrement. Ouais. Chaque année, on a des découvertes qui sont fabuleuses. Alors peut-être pas aussi fabuleuses que celles que j'ai montrées ce soir, parce que ce soir, j'ai résumé 200 ans pratiquement de recherche. Donc j'ai pris la quintessence des découvertes archéologiques de ces 200 dernières années. Cela dit, nous continuons à faire de belles découvertes. Nous ne sommes pas à l'abri de faire une découverte majeure comme celle de Qumran. Moi, je rêve évidemment de découvrir d'autres sites. Des manuscrits de Qumran, on continue à en publier des nouveaux qui sont dans telle ou telle collection privée. J'étais encore tout récemment à San Francisco, on m'a présenté des fragments de Qumran qui ne sont pas encore publiés et qui vont être publiés prochainement. Enfin voilà, donc et puis il faut continuer à faire des fouilles. Il y a des tas de sites archéologiques qui ne sont pas fouillés. Une collègue de l'université de Strasbourg est en train de collaborer avec elle à la mise sur pied d'un projet de fouille archéologique en Jordanie sur un site qui n'a pas été fouillé. Si on pouvait trouver des documents qui nous permettent justement de mieux comprendre le monde de la Bible, ce serait absolument fabuleux.
Alors, on sait que vous avez déjà évidemment pas mal de pain sur la planche de travail pour publier justement tout ce qui a été trouvé à Qumran, que vous êtes en train d'éditer. Peut-être un ou deux livres sur lesquels vous avez travaillé récemment que peuvent intéresser le grand public, parce que évidemment vous publiez des choses très élaborées pour des spécialistes.
Voilà, oui, c'est ça. Alors il faut distinguer le différent type de public. Je pense que le livre qui va le plus intéresser nos auditeurs, c'est le livre que j'ai rédigé, enfin avec d'autres personnes, avec des collègues l'an passé, à l'occasion de l'exposition à Paris. Et donc le livre s'appelle Qumran, le secret des manuscrits de la mer Morte.
Voilà, qui était le titre de l'exposition.
C'était le titre de l'exposition, c'était le titre de ce livre. C'est vraiment un beau livre qui était très bien fait, qui vise un public très large, avec de nombreuses illustrations très accessibles. Ensuite, s'il y a un public un peu plus intéressé, je viens de lancer, alors ça c'est tout nouveau, une collection qui s'appelle L'écriture de la Bible, et qui précisément s'intéresse à toute cette période de formation de la Bible, jusqu'à la période où le texte est canonisé et figé. Et bien, donc cette collection L'écriture de la Bible vient de sortir aux éditions du CERF, un premier volume vient de paraître, qui s'intéresse, comme par hasard, au manuscrit de Qumran, j'ai pas pu m'en empêcher, et qui s'intéresse à la question des mystères et des choses cachées à Qumran. D'autres volumes sont en préparation, il y en aura bientôt. Et puis il y a d'autres publications un peu plus techniques. Je vous parlais tout à l'heure de ce livre que je viens d'écrire sur Josué chapitre 10. Mmh. Alors ça va intéresser ceux qui ont déjà une formation dans les langues bibliques, hein, qui ont étudié le grec, l'hébreu. On va explorer verset après verset ce chapitre important du livre de Josué. Donc voilà, trois livres qui peuvent intéresser trois publics différents. Je pense qu'avec ça, il y a de la lecture.
Michael, un dernier mot pour signaler le site, parce que j'ai vu que vous êtes très branché sur le net et certainement à juste titre pour faire connaître votre travail. Vous avez un site sur lequel on peut vous suivre, savoir vos conférences, les sujets sur lesquels vous travaillez ?
Oui, absolument. Alors tout simplement, michaellanglois.fr, michaellanglois en un seul mot sans tirer, .fr. Et là, évidemment sur ce site, je parle de mon actualité, des publications, des conférences. Et effectivement, c'est un bon moyen de me suivre.
Merci beaucoup, Michael. On vous écouterait encore longtemps, mais notre émission a ses limites. On espère vous avoir à nouveau à Orléans prochainement.
Avec plaisir, merci.
Bonne continuation, à bientôt. Chers amis, merci de nous avoir suivis dans cette émission Église aux mille visages sur RCF Saint-Aignan. À bientôt pour une nouvelle émission de Église mille visages.